Restez avec nous, je vous propose une réécoute ce soir. Et tout de suite pour commencer, lui, le parrain du genre Comment l'oublier.
Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. Sugar and spice, I feel nice. Sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, a sugar and spice.
Évidemment, vous êtes plein, j'imagine, à l'avoir reconnu, le parrain de la soul, le frère soul, numéro 1, Mr. Dynamite, j'ai nommé le seul, l'unique, l'exceptionnel James Brown dans I Got You, I Feel Good. Son plus grand succès aux États-Unis, c'était en 1965, il avait alors une petite trentaine d'années, alors même si vous ne connaissez pas cette chanson, j'ai du mal à l'imaginer. Vous connaissez sûrement le cri, que dis-je, le rugissement qui l'ouvre et que je me garderai bien d'imiter d'ailleurs. Et oui, parce que ce cri a été échantillonné maintes et maintes fois dans quantité d'enregistrements de hip-hop, enfin de rap quoi. Et d'ailleurs dans les années 80, imaginez que les enregistrements de James Brown étaient ceux qui étaient le plus fréquemment dépecés, échantillonnés et recyclés par les jeunes rappeurs et scratchers. Pourquoi ? Bah c'est simple au fond, parce que dans les enregistrements de James Brown, ce qui est mis en avant pour la première fois dans la musique noire, c'est l'élément purement rythmique, c'est-à-dire quelque chose qui se pratiquait déjà dans la musique afro-cubaine, et avec James Brown, la mélodie et les harmonies passent à l'arrière-plan et deviennent, si vous préférez, des prétextes, puisque la musique de James Brown, c'est le rythme, qui est souvent très fortement accentué sur le premier temps de la mesure, et puis évidemment, ses cris, vociférations et onomatopées diverses et variées. À ce moment-là, le funk n'est pas encore constitué comme genre musical à part entière, hein, il faut savoir ça. Et James Brown se situe encore dans l'orbite du rhythm and blues et de la musique soul qui est alors un genre naissant. Mais enfin, les jalons de ce qu'on va appeler le funk sont posés. Alors, funk, au fond, qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Alors, si vous regardez dans un dictionnaire, vous apprendrez qu'en anglais d'Angleterre, funk, ça désigne en argot la la peur, la trouille, enfin la pétoche, quoi. Mais dans l'argot noir américain, rien à voir. L'adjectif « funky » désigne ce qui est lié à la transpiration, à ce qui suinte, et par extension, si vous voulez, tout ce qui ne sent pas la rose, hein, que ce soit lié au travail physique, comme à un autre genre de travail, hein, l'acte sexuel évidemment. Et rapporté à la musique, déjà dans l'argot noir du jazz, « funky », eh bien, ça désignait un jeu cru, un jeu sans artifice, ni sophistication. Et puis, dans le vocabulaire des musiciens et amateurs de rock, hein, en majorité blanc, « funky », ça a fini par désigner des musiques où le premier temps de la mesure est accentué, ça c'est très souvent le cas, c'est vrai, et où, en tout cas, de manière générale, l'élément noir est très présent. En tout cas, en 1965, deux chansons de James Brown avec son groupe, hein, les Famous Flames, « Papa's Got a Brand New Bag » et puis « I Got You, I Feel Good », hein, celle qu'on a entendue, débordent pour la première fois dans ce style-là, hein, du marché de la musique noire aux États-Unis et touche le grand public. Et puis par ricochet, ça va toucher l'Europe et le Royaume-Uni en tête, toujours à l'avant-garde, et puis le reste du monde. Alors, par exemple, pour Mick Jagger des Rolling Stones, alors un blanc bec qui avait quoi, à peine 22 ans, James Brown, ben, c'est plus qu'une révélation, c'est carrément un choc, c'est une secousse sismique. Il paraît d'ailleurs qu'une fois, j'ai lu ça, je crois, dans un magazine anglais, lors d'une émission de télévision américaine, où les Stones devaient jouer live, Jagger s'est caché dans les toilettes tellement il était vert à la perspective de chanter en présence de James Brown. Faut dire que James Brown, c'était une vraie tornade sur scène. Il a alors la réputation du plus grand homme de spectacle, hein, showman, comme on dit, alors vivant. Imaginez qu'il est accompagné d'une formation, on pourrait dire, à une revue, avec une vingtaine de chanteurs, danseurs et musiciens. Il donne des récitals marathoniens que à la lettre, hein, il termine à genoux. À la fin de ses spectacles, il simule l'évanouissement, hein, tellement il s'est donné. Arrive alors, selon un protocole bien rodé, des gardes, hein, qui surgissent pour le ranimer, entre guillemets. À ce moment-là, non, James Brown, il feint une sorte de courage désespéré. À l'agonie, il se met à ramper, il repousse et il continue à hurler, à râler dans le micro. Alors que font les assistants? Ils lui passent une cape luisante, hein, comme un boxeur à la fin d'un combat. Mais non, il les repousse encore et il trouve une dernière fois la force de chanter à genoux. Mais bon, à part ça, les concerts de James Brown, c'était pas que du cirque, hein, loin s'en faut. Et dans son groupe des années 60, les Famous Flames, il y avait des musiciens d'exception, notamment le tout jeune saxophoniste Maceo Parker, hein, qui brillait à l'alto, au ténor, comme au baryton. Et c'est d'ailleurs lui qu'on entend prendre un solo dans I Got You. Alors oui, il y a eu ce père fondateur du funk, James Brown, mais dans son sillage, il y a eu bien sûr quantité de mélanges et de fusions diverses avec le rock et le jazz, bien sûr. En particulier sous l'influence du funk, le grand trompettiste de jazz Miles Davis a entamé alors, hein, c'était vers l'année 68, une véritable métamorphose musicale. Je vous en reparlerai. Beaucoup d'artistes femmes, hein, des chanteuses, ont marqué le genre et je voudrais vous en faire écouter deux. D'abord, Chaka Khan, hein, c'est une chanteuse de Chicago qui était proche dans sa jeunesse du mouvement des Panthères Noires, les Black Panthers, un parti révolutionnaire dont les membres, parfois armés, réclamaient le respect des droits du peuple noir américain. Au début des années 70, Chaka Khan s'est associée à un groupe de musiciens blancs qui s'appelait Rufus, hein, comme le prénom Rufus, avec lesquels elle a enregistré d'excellents titres entre rock, soul, funk et jazz, avec une touche de psychédélisme. Rufus a connu un grand succès dans la première moitié des années 70. Dance With Me, c'est Chaka Khan avec Rufus en 75. Yeah. Don't Bring Me Down, cette voix haute, noire, au timbre très clair, hein, formée au gospel, c'était celle de la chanteuse Patti LaBelle. Vous la connaissez sûrement pour l'illustre tube Lady Marmalade, hein, qui contient le fameux passage en français « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Voilà, c'était elle. Et bien, cette chanson est extraite du même album, Nightbirds, qui a été publié en 1974, de son groupe LaBelle, qui était un trio vocal. Originaire de Philadelphie, puis passée par New York et enfin Londres aussi, Patti LaBelle a navigué toute sa carrière entre soul, funk, rock et jazz, en passant d'ailleurs aussi par le folk. Alors, d'ailleurs, à Londres, Patti LaBelle et les deux autres chanteuses de son trio, Nona Hendricks et Sarah Dash, ont même été associées au courant glam rock. Je me souviens qu'on les voyait sur leurs photos promotionnelles et à la télévision en combinaison futuriste argentée avec d'immenses coupes afro. C'était assez mémorable. En tout cas, le son de LaBelle en 74, c'était celui de la Nouvelle-Orléans. Le trio avait en effet enregistré cet album, Nightbirds, avec un musicien de là-bas, un des plus légendaires de la ville, Alan Toussaint, hein, ça s'écrit comme en français Toussaint. Et ce pianiste, compositeur et producteur artistique qui malheureusement nous a quittés cette année, eh bien c'est lui qui a façonné dans les années 60 et 70 ce son très particulier au rythme moite et syncopé qui a d'ailleurs préfiguré celui du reggae. Alors je vous parlais tout à l'heure de Miles Davis, eh bien il faut savoir que c'est sa femme, Betty Mabry, on peut même la considérer d'ailleurs comme sa muse, qui a initié Miles Davis au funk vers 1968. Betty Davis, hein, on la connaît sous son nom de femme mariée, elle venait du sud rural des États-Unis, elle avait débarqué très jeune à New York, elle avait je crois 16 ans, pour y prendre des cours de stylisme. Sa beauté lui avait valu d'être engagée comme mannequin, hein, par une agence célèbre, et puis parallèlement, elle animait des soirées dans un club où elle passait des disques. Et c'est comme ça qu'elle avait rencontré Miles Davis, à qui elle avait présenté deux de ses connaissances, Jimi Hendrix, eh oui, et aussi Sly Stone, hein, le créateur du funk psychédélique californien. Alors, la rencontre de Miles Davis avec le rock psychédélique a été à l'origine d'un de ses enregistrements historiques, hein, c'est l'album Bitches Brew, qui est paru en 1970. Et on peut dire que la source en a été sa femme, Betty. Alors, même si leur mariage orageux n'a duré qu'un an, eh bien c'est grâce à elle que Miles Davis a rencontré le funk. Betty Davis s'est ensuite lancée elle-même dans la musique, elle a composé et orchestré des chansons dans un style absolument nouveau à l'époque, qui était entre blues, funk et rock. Elle était épaulée par des accompagnateurs de Sly Stone, et c'est ainsi qu'elle a enregistré entre 1973 et 1975 trois albums mémorables, et qui n'ont peut-être pas rencontré l'accueil qu'ils méritaient à l'époque. Elle chantait, faut dire, des chansons à l'énergie rare, d'une franchise et d'une crudité sexuelle animale qui était sans doute un peu trop audacieuse pour la période, pour n'importe quelle période d'ailleurs, puisque alors Betty Davis se produisait sur scène coiffée d'un immense casque afro en mini-short et cuissard argenté, mais c'était pas seulement une image, hein, qui est voulue par un homme, comme ça avait été le cas pour Tina Turner avec son mari Ike, qui avait vraiment tout mis en scène, ou alors c'était pas non plus un jeu ironique au second degré, comme ça le serait aujourd'hui. Non, non. Betty Davis déchaînait une énergie sexuelle authentique, et c'était peut-être trop pour certains. Il suffit d'écouter ses cris, éructations et feulements dans If I'm in Luck, I Might Get Picked Up. Avec un peu de chance, je pourrais me faire draguer. Ça remonte à 1973.
I'm in love. Very Good Trip sur France Inter.
Gone home and face the music. that don't sound too good. Ain't that cool? Listen. Lord, it's a real motherfucker. It'll make you wanna run for cover, yeah. And if you look, you will discover, yeah. Lord, it's a real motherfucker, yeah.
Motherfucker, c'était le guitariste et chanteur Johnny Guitar Watson en 1977. Un musicien disparu il y a 20 ans déjà. Originaire du Texas, il avait démarré sa carrière comme pianiste, accompagnateur de blues et rhythm and blues à Los Angeles. C'était vers le milieu des années 50. Et il s'était mis à la guitare que vers l'âge de 20 ans. D'où son surnom de Johnny Guitar Watson, puisque Johnny Guitar d'ailleurs était aussi le titre d'un western célèbre de la période. À la guitare, il a apporté une innovation de taille sur le plan de l'amplification, puisque, paraît-il, il a été le premier à utiliser le feedback, c'est-à-dire la réinjection d'un signal sur lui-même, du micro à l'ampli réciproquement, hein, ce qui crée une sorte de stridulation. Et puis aussi, paraît-il, la reverb, qui, comme son nom l'indique, est un effet de réverbération sonore. Voilà, Johnny Guitar Watson aussi, il a été un de ceux qui ont donné des idées à Jimi Hendrix. Et un autre de ses admirateurs, eh bien, c'était Frank Zappa, qu'il a d'ailleurs invité à participer à l'un de ses albums au milieu des années 70. En cette période, la musique de Johnny Guitar Watson prenait un tour un peu plus funky. En tout cas, ce titre de 1977, hein, Real Motherfucker, ça évoque un peu, enfin moi c'est ce que j'entends, ce qu'aurait pu faire Stevie Wonder s'il avait grandi dans le sud, hein, dans un climat plus moite, propice à des rythmes plus, comme ça, plus nonchalants. À présent, un groupe noir californien qui, dans les années 70, a créé une fusion de soul, funk, rock et musique latine qui aurait mérité d'être autant connue du grand public que celle du groupe Santana. Il s'agissait du groupe War, hein, W-A-R, hein, War comme guerre, un groupe qui avait été découvert dans la région de Los Angeles par le chanteur anglais, hein, des Animals, qui vivait à ce moment-là en Californie, Eric Burdon. Et Burdon avait été tellement subjugué par eux qu'il les avait engagés sur le champ comme accompagnateurs. Et puis, Burdon avait aussi voulu marquer de cette façon sa solidarité avec le combat des Noirs américains dans leur lutte contre le pouvoir blanc. Low Rider, un succès du groupe War en 1975.
Low Rider.
Un succès funky de 1975, c'était le groupe anglais Stretch, aujourd'hui complètement oublié, Why Did You Do It? Il y a eu d'autres exemples de groupes anglais qui ont fait un funk très américain. 75, c'est aussi l'année de Hot Stuff, des Rolling Stones, et de leur album très marqué par le funk de la Nouvelle-Orléans, Black and Blue, et puis aussi de ce classique de Roxy Music, Love is the Drug, deux chansons au style très proche de ce Why Did You Do It? Alors, sous l'influence de Bob Marley, déjà ça c'est important, mais aussi de ce funk de la Nouvelle-Orléans, le rock est devenu très funky vers le milieu des années 70. Why did you do it? Pourquoi as-tu fait ça? Il y a une drôle d'histoire derrière cette chanson. Le groupe Stretch, c'était un groupe de blues rock londonien auquel on a proposé un drôle de marché. C'est presque l'histoire d'un film, ce truc. Il se trouve que le groupe Fleetwood Mac, qui avait été fondé à Londres par des musiciens de blues, ensuite exilés à Los Angeles, ce groupe faisait, en 73, une tournée américaine quand, patatras, éclate un scandale. Le guitariste américain du groupe, Bob Weston, vit une aventure avec la femme du batteur, Mick Fleetwood. Conséquence, l'américain est saqué immédiatement et la tournée est annulée. Alors évidemment, fureur du manager Clifford Davis, et parce que les membres du groupe refusent tout simplement de terminer la tournée. Il leur dit, bon, écoutez, très bien, tant pis pour vous, moi j'ai la propriété du nom Fleetwood Mac et je vous emmerde, voilà. Il engage alors d'autres musiciens londoniens et il les envoie en tournée sous le nom de Fleetwood Mac. Et à l'époque, faut comprendre qu'il n'y avait que les pochettes de disques pour connaître la tête des musiciens, et si on les voyait pas, par exemple, à la télévision de près, ou même si on les voyait comme ça une seule fois à la télé, il n'y avait pas de magnétoscope, il y avait encore moins d'internet, donc on n'était pas trop sûr de qui était sur scène. Et c'est d'ailleurs comme ça que David Bowie avait vu à New York le Velvet Underground sans se rendre compte que Lou Reed ne faisait plus partie du groupe. Bref, il y a eu un conflit. Selon le manager Clifford Davis et les musiciens qui ont servi de doublure, Mick Fleetwood aurait dit oui, et puis il se serait rétracté avant d'attaquer en justice le faux Fleetwood Mac pour usurpation d'identité. En tout cas, le faux Fleetwood Mac a poursuivi sa carrière sous le nom de Stretch, et les musiciens ont écrit cette chanson à destination de Mick Fleetwood. Pourquoi t'as fait ça? Je repense à ce que tu m'as fait, le mal est bien plus profond que tu crois, ça a été comme un coup de massue, et je me demande bien si on t'a poussé ou forcé à le faire. Et voilà. À présent, un musicien new-yorkais, originaire lui de Harlem, Joe Batan, une des grandes figures de la fusion du funk avec la musique afro-cubaine. Alors c'est étonnant, mais quand on écoute ce titre qui remonte à 2005, on est surpris parce que Joe Batan l'a enregistré quand il avait plus de 60 ans et pourtant ça sonne comme s'il l'avait fait 30 ans auparavant, d'où sa présence dans ce programme Keep the Change.
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
Hey fellas, I'm talking to you, you too. You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day, expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us. We got to get what we want. So you'd better think. Think. There was a time when we had respect. That's the thing I never will forget. Now baby, I got a life to live and a whole lot of love that I want to give.
Think About It, une chanson enregistrée en 1972 sous la direction de James Brown pour la chanteuse texane Lynn Collins. Alors le son est typique des productions de James Brown avec les cris à l'arrière-plan et les relances au cuivre. Malheureusement, Lynn Collins, qui est passée par l'école du gospel à 500 ans, n'a pas fait la carrière que sa voix remarquable aurait pu lui promettre. Elle a surtout travaillé comme choriste. Et dans les années 90, elle s'est relancée dans la house, hein, vous savez, ce style de musique de danse électronique lancé à Chicago. Elle a commencé à se produire dans des festivals de jazz à la fin des années 90 et puis après sa première tournée européenne en 2005, elle a tristement succombé à un arrêt cardiaque. Alors on va maintenant rafraîchir la température avec la voix merveilleuse d'un chanteur londonien à l'origine mêlée, hein, antillaise et nigériane, belge aussi. Il a été très populaire au Royaume-Uni au début des années 70, il s'appelle Labi Siffre et on lui doit une chanson célèbre, It Must Be Love, hein, entre folk et soul, un peu dans le style de Cat Stevens ou de l'américain Rodriguez. Une chanson d'ailleurs qui a été un tube pour le groupe Madness, qui l'a reprise avec succès vers le milieu des années 80. Mais là, c'est une chanson funky et suave à la fois, un style qui va bien à Labi Siffre, The Vulture, le vautour. Il l'a chanté ça en 75 et après le vautour, si on a le temps, et peut-être il y aura un aigle.
The Slipping, slipping, slipping. Slipping into the